Allô?
Allô, bonjour Thomas. Marion à l'appareil. Est-ce que tu vas bien?
Salut Marion, ouais, ça va très bien toi.
Bah écoute, pas mal, pas mal. Donc pour ceux qui écoutent cette interview, c'est un petit bonus sur l'interview, sur l'article spécial sac d'évacuation slash Bob en cas d'invasion zombie. Et je fais appel à
Oui.
toi, Thomas, parce que tu es bah, plus ou moins un expert. En tant que directeur du dernier bar avant la fin du monde, tu es très 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 documenté.
Ouais, je m'intéresse à la question.
Alors pour ceux qui l'ignoraient, Thomas avait invité Mark Brooks, comme ça qu'on dit,
Max Brooks, ouais, tout à fait.
pour donc l'auteur du guide de survie. C'est quoi le nom du titre exactement?
Alors, le titre exactement en français, ce sera Guide de survie en territoire zombie, qui est venu après donc la guerre contre les zombies de Z War,
Donc voilà,
World War Z.
et c'est à cette occasion qu'on s'était rencontrés d'ailleurs.
Tout à fait, c'était assez génial qu'on soit là tous ensemble avec Max Brooks quand même, grosse occasion.
C'est clair, encore des tonnes de choses. Donc voilà, en cas d'infestation zombie, enfin, d'invasion, ou
Ah.
je ne sais pas quel terme décrire,
Bah, ça dépendra du type, effectivement.
on va parler du kit de survie, enfin non, kit de survie. Grosse taille, puisque c'est le bug bag, le sac d'évacuation.
Effectivement, on peut déjà rappeler que le bug out bag, le sac d'évacuation, c'est un truc particulier qui s'applique aux histoires de survie en général, mais dans la première phase ou la deuxième, selon comment on voit les choses, d'une crise très forte, très forte, très grave, quoi. Donc c'est un truc sérieux, hein, qui a été étudié par de nombreux survivalistes et personnes qui s'intéressent à l'équipement de survie, puisque c'est centré autour du fait que qu'est-ce que tu mets dans un sac à dos ou dans un contenant pour partir tout de suite avec le strict nécessaire, le truc le plus utile qui te permette d'évacuer, quoi. Donc là, en plus, on parle d'une situation particulière qui est une catastrophe zombiesque d'une nature ou d'une autre, hein, comme justement Monsieur Brooks l'a expliqué dans son guide de survie. Il y a plein de types de zombies différents, plein de types de catastrophes différentes, donc c'est assez vaste, mais bon, ça reste quand même de la survie. Et donc on pourrait, si on veut s'amuser à ça, appeler ça un Z Bob, puisque c'est bien un Bob un bug out bag contre les zombies. Un peu
Z-Bob.
particulier.
Z-Bob.
Ouais.
J'aime
On
beaucoup.
aime bien mettre des lettres dans le secteur.
Z-Bob. Donc, ton Z-Bob, déjà, il commence par le contenant, un sac. Comment tu dis ton sac?
Bah pour le coup, on va rejoindre ce qu'on dit sur les bobs en général. C'est un sac qui doit être adapté à ta circonstance. Donc, on est dans un objectif de rapidité, d'efficacité, où ce qu'on a considéré comme les gens en général considèrent qu'un bob sert pour survivre en autonomie à l'extérieur de ta zone de confort pendant un truc comme 3 jours. Honnêtement, ça dépend de plein de facteurs, de savoir si t'es à pied, en vélo, en voiture, mais on va considérer que t'es plutôt à pied, donc tu dois avoir un truc qui pèse pas trop lourd pour pouvoir te déplacer et rapidement et assez longtemps. Pour tout le monde, en fait, hein, selon que tu sois un grand sportif ou pas. En plus, la particularité de la situation des zombies, c'est que, contrairement à d'autres qui peuvent être tremblements de terre, des trucs réalistes, on va dire que les zombies portent une contrainte de mobilité forte. Alors généralement, le bob sert pour les zones urbaines, mais un peu partout, ça dépend où vous habitez à la base, hein, vous. Donc il faudra réfléchir à ce qui concerne l'endroit que vous quittez et l'endroit que vous voulez évacuer, mais il y a des points communs. Donc je dirais que la plupart du temps, on considère qu'il faut un sac à dos, ce qui est le plus logique, hein, et je dirais un sac à dos technique. Donc il y a deux pistes. On va soit vers les techniques sportives, soit vers les techniques militaires ou paramilitaires, puisque c'est ceux qui ont déjà réussi à sortir des équipements qui sont les plus efficaces dans ce genre de situation. Et donc, on dit aussi qu'il ne faut pas que ce soit un trop gros sac et qu'il permette quand même d'embarquer le minimum vital, voire le plus utile. Donc, pour répondre à la question plus directement, je dirais pas plus que. On dit qu'il ne faut pas mettre un sac à dos de plus de 20-30 litres. Je dirais moi personnellement que c'est pas tellement la question de savoir combien de litres il fait, mais de savoir ce que tu mets dedans. Donc tu peux t'envisager un sac à dos un peu plus grand, un vrai sac à dos de randonnée qui peut être de 45-50 litres, plus ça sert pas à grand chose. Parce que tu sais avec quoi tu pars, mais tu sais pas avec quoi tu dois arriver. Donc si tu dois mettre des trucs dans ton sac par la suite, ça te fait utile, même des trucs pas lourds. Et c'est pas parce que ton sac est grand qu'il sera beaucoup plus lourd. Ça dépend encore une fois de ce que tu mets dedans. Moi personnellement, j'utilise pour mon bob d'une manière générale une des nombreuses copies qu'on trouve des marques des styles, enfin de la marque Maxpedition, qui est la marque, une des plus grandes marques de sacs à dos techniques. Maxpedition, je pense que les gens connaissent sur le site, c'est quand même la base. Il y a des marques parallèles, un peu moins chères ou un peu équivalentes. Moi, j'ai un Hazard 4. C'est une marque qui s'est construite un peu justement plus moins fort sur une catégorie de trucs pas forcément que militaires, mais un peu multi-usage, un peu de la même manière. Et un truc genre effectivement sac entre 20 et 40 litres, c'est ce qui vous sera utile. Techniquement, il faut que ça soit un sac solide, pas un sac pour jouer, hein. C'est un truc sur lequel va jouer votre survie, comme tout le matériel qu'on utilise, c'est du vrai matériel. Donc oui, il faut investir un petit peu d'argent dedans, parce qu'évidemment le vrai matos, ça coûte un petit peu plus cher. Tombez pas trop dans les marques, les grosses sous-marques, je vous invite à vous renseigner sur lesquelles faut éviter. Mais un truc avec des sangles, avec des systèmes mollets sur lesquels tu peux installer d'autres choses, un système compressible qui te permet d'agrandir ou de réduire la taille de ton sac, plusieurs poches, quelque chose qui te permette une certaine étanchéité quand même, de la résistance face à l'usure, même si c'est pour durer 3 jours, ça va peut-être être intense. Et l'idée de que ce soit un sac déjà bien compartimenté, c'est vachement bien pour la survie, spécialement pour un bug out bag où tu vas avoir des kits. Comme on va en parler, il y a différentes parties qu'il faut utiliser dans ton sac.
L'idée, c'est de pouvoir retrouver dans son sac au plus rapidement possible certains éléments et savoir donc précisément où ils sont. Et pour ça, le mieux, c'est de les regrouper.
C'est ça. Et si t'as plein de poches différentes, c'est pratique.
Et si en plus la poche elle-même est pratique et qu'on visualise, enfin qu'on a bien tout sous la main, c'est vraiment génial. Ouais. Donc c'est même un gain de place au final. Toutes ces parois,
Après, il y a des écoles qui discutent. Soit effectivement, tu as un sac qui est déjà bien compartimenté en soi et du coup, bah, tu sépares bien tes affaires. Il y a des vieux de la vieille qui diront que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait s'organiser, qu'il faut prendre un grand sac avec une seule partie et puis qu'à l'intérieur tu mets des petites sacoches, etc. Pourquoi pas, hein, ça peut se faire. Après, faut être à l'aise avec son sac. C'est surtout un outil que tu vas utiliser toi, donc faut déjà l'avoir expérimenté. Je rappelle que la théorie c'est super, mais il faut quand même travailler un petit peu sa pratique, voire beaucoup. Et même si c'est effectivement, on vous dit pas d'appeler vos copains pour faire les zombies, pour vous entraîner aux zombies, faites-vous votre sac, allez en randonnée avec, voyez si vous pouvez durer 3 jours avec. C'est pas des trucs qui sont très compliqués, même un week-end, vous verrez vite où sont les problèmes. C'est fatal.
En plus, ça fait un week-end sympa.
En plus, ça fait un week-end sympa.
Alors, à l'intérieur du sac, quel est le premier module dont tu voudrais parler?
Alors, il y a des modules et il y a des trucs génériques. C'est pas très compliqué. Généralement, on dit que il y a quand même des choses importantes qu'il faut avoir dans un bob. Pour faire un sommaire, comme ça je reviendrai dessus, on considère qu'il faut une partie nourriture, alors on va dire un kit nourriture et tout ce qui va te servir à manger, à t'alimenter, la bouffe et le matos de bouffe. Ouais. On sépare ça de l'eau, puisque l'eau c'est pareil, c'est un kit en lui-même, vous allez voir qu'il n'y a pas que, il suffit pas de juste emmener une gourde, vous devez le savoir. Hein. Je mettrai un kit orientation, pour te retrouver, trouver ton... te permettre de débrouiller avec un itinéraire, savoir comment faire pour garder ton chemin. On pourrait appeler le kit chaud, le kit feu, enfin tout ce qui te permet de rester au chaud. Donc c'est pas forcément du feu du coup en fait. Comment ?
Il se rapproche parfois du compartiment cuisine.
Ouais, de toute façon, faut pas oublier. Moi, c'est pour ça que le côté kit, je trouve ça bien pour expliquer. Mais après, en pratique, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont mélangés. Donc, de toute façon.
Certaines fois, Certaines fois, l'objet multi-utilisation, c'est efficace.
Exactement. On va en parler après de l'optimisation de l'utumatos, mais c'est sûr. Le kit premier secours. Bon, ça parle par soi-même. Médical, hygiène, premier secours, tout ce qui va avec. Kit de couchage qui se mélange un peu avec le kit chaud, mais il y a quand même des trucs très précis dedans. Je dirais après, il y aura un kit bricolage avec tout un tas de matos qui vont te servir pour les bricolages, qui peuvent te servir dans les autres, dans différents cas. Et après, il y a d'autres petites choses, kit perso. Pour ceux qui savent ce que c'est, c'est sûr qu'il y aura un petit mélange, voire un gros mélange aussi avec ton EDC, puisque foncièrement, ton EDC, tu l'as toujours avec toi. Donc, de base, il y a déjà des trucs dedans, mais ça vient avec un dogon bag aussi. Tu peux faire des doublons, c'est pas idiot. Hein.
Donc, pour ceux qui l'ignorent et qui écoutent cette interview, en fait, on a le fond de poche qu'on a dans les poches. Le EDC, Every Day Carry, c'est ce qu'on transporte toujours avec soi, mais plutôt dans sa veste, dans son sac, etc. En fait, ce sera des matos un peu plus gros. Et puis le sac d'évacuation, lui, bien sûr, il sera plus gros. Parfois, il est modulaire, à savoir, il y a une partie qui sera spécialement pour l'hiver, une partie qui sera spécialement pour l'été, et on rassemblera au dernier moment en partant.
Exactement. C'est pour ça que je fais un sommaire de tous ces kits, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est gentil, mais il faut réfléchir au fait que ça sera pas le même selon l'endroit où vous êtes, selon la période à laquelle vous êtes, selon la situation de crise que vous allez devoir affronter, les objectifs que vous voulez vous donner. Il y a une base commune, ouais, à dire, soyez pas bêtes, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut faire ça qu'il faut faire la même chose en été et en hiver. Après, en plus, quand on parle du bob, le truc important à dire tout de suite, c'est que le bob, c'est le sac, mais qu'il n'y a pas que ça. On peut parler des vêtements, on peut parler de... Dans un bob, on parle pas d'armes, par exemple. Qui est dans un cas de survie contre les zombies est très idiot, donc on va en parler quand même. on peut déborder de l'histoire. Mais donc voilà. Donc après, tu me dis qu'est-ce qui vient en premier, il n'y a pas d'ordre. C'est, je dirais, pour ranger ton sac, réfléchis à d'abord comment.
Bon, allez, on met au fond du sac. Moins possible, on va mettre toute la partie couchage, abri.
Exactement, je suis complètement d'accord. Selon la manière dont tu t'organises, c'est un truc qui va prendre beaucoup de place. Généralement, c'est le kit couchage, hein, parce que même si tu prends, et je vous invite à regarder les différentes marques, les différents modèles, les trucs les plus légers qui existent, plus tu vas dans le léger et le technique, plus ça va être super pratique, mais très cher, évidemment. Donc, t'es souvent entre un truc un peu entre les deux. Tu vois, avant, tu te dis, j'ai déjà un sac de couchage avec lequel je fais de la randonnée, mais du coup, est-ce que j'emmène ? Peut-être. Mais tu vas voir que ton sac de couchage, il coûte pas cher, mais il est énorme. Et dans un sac qui fait 20 kilos, dans 1 litre, il va prendre toute la place, en fait. Donc, il y a un problème de praticité. Donc, à vous de vous débrouiller avec un truc comme ça. Mais tu mets dans ton fond de sac les trucs que tu vas sortir une fois par jour, par exemple. Donc, qui sont, le kit couchage, normalement, c'est ça, hein. Donc, qu'est-ce que je me conseillerais dans le kit couchage? Je me parle du sac. Tout ça est évidemment sujet à discussion, mais je dirais qu'un sac de couchage, pas un gros, mais un truc léger et petit qui te permette de passer, de couper du froid déjà, c'est vachement important. Pour ce que vous devez tous le savoir, mais un des facteurs les plus critiques de la survie, et surtout dans les premiers jours, c'est le repos. Et même si c'est pas pour dormir, mais c'est pour vous reposer. Les zombies, c'est stressant, donc vous êtes encore deux fois plus stressé. Si vous n'avez pas à vous caler confortablement quelque part, vous êtes foutu. C'est clair, vous n'allez pas durer même pas trois jours, quoi. Donc, un sac de couchage léger, technique, qui marche bien, c'est toujours un bon investissement. On peut même jusqu'à dire que si vous êtes habitué et déjà bien rodé à la survie, et du coup, je vous l'apprendrai pas, vous pouvez passer d'un sac de couchage et aller vers plutôt une sorte de poche de survie, hein. Il y a des trucs qui marchent bien qui sont vraiment des on va dire carrément de la couverture de survie enveloppante, quoi. Mais là, c'est déjà un niveau de non-confort supérieur, quand même.
Ouais.
Donc le sac de couchage, un objet qui vous servira toujours en survie, qui est pratiquement un des trucs de base, ça sera une sorte de bâche.
Une bâche.
Ça s'appelle de différentes manières selon les personnes qui en parlent, un tarp ou il y a plein de mots pour ça, hein. Mais une grosse bâche. Alors pourquoi? Parce que en fait, c'est un des trucs les plus multi-usages que vous pouvez trouver. Comme on disait tout à l'heure, c'est bien de pouvoir avoir un outil qui va vous servir à plein de trucs. Un sac de couchage, c'est bien, mais si vous êtes par terre, vous allez avoir froid. Si c'est mouillé, vous allez être mouillé, et pour s'il pleut, vous allez être trempé quand même. Si vous avez une bâche bien faite, alors je conseille des bâches, encore une fois, il y en a qui sont déjà existantes pour la survie, Vous pourrez aller les chercher. Il y en a qui sont des trucs d'outils que vous trouverez qu'il ou tout, mais une bâche avec des œillets, c'est important. Pas trop petite, hein, qui soit durable 2 mètres sur 3, c'est la base. Ça prend pas beaucoup de place, solide. C'est léger, mais s'il y a des œillets, vous pouvez l'attendre, vous pouvez en faire une tente, vous pouvez en faire un poncho. Il y a même des ponchos qui servent à la base à ça, qui vous disent, on vous dit c'est un poncho, mais en fait vous pouvez aussi l'utiliser comme comme tente, comme abri. Bon, ça a plein de manières de servir, mais la bâche c'est super important. Ça vous sans aller dans le détail, vous imaginez pas le nombre de services que ça peut vous rendre.
Alors j'ai pas de nom de bâche qui me vient à l'esprit parce que c'est au cas par cas, c'est à l'épaisseur, c'est à la solidité quand on voit quoi.
Ouais, ça s'écharpe sur les forums pour savoir quelle est la meilleure. C'est un des sujets préférés des survivalistes.
Ouais, je vais faire un œil. Pour les couvertures de survie, je vais faire un article spécifique. Et pour le sac de couchage, est-ce que tu as une recommandation particulière?
Moi-même ne suis pas mon propre conseil. J'ai mon vieux sac de couchage que j'ai depuis des années, mais parce que j'ai trouvé le moyen de le garder avec moi. Sans que ça soit trop contraignant, je le mets pas dans le sac, je le mets dessous. Ouais. Pour un sac de couchage, j'en avais vu, malheureusement, j'ai pas gardé sous le coude. Il y en a des récents qui sont vraiment cool. Il y a évidemment des très bonnes marques. Faudrait que je te retrouve ça. Il y a une marque américaine qui est très forte, qui est complètement militaire, évidemment. Qui ont un des modèles vraiment super bien, qui te permet à la fois qui est en deux parties, c'est-à-dire que t'as un sac de couchage assez compressible. Alors évidemment, je ne vais pas parler, mais dans un sac de couchage, un des éléments importants, c'est le sac de couchage, le truc qui l'a fait compresser à mort.
Oui.
Ça c'est important. Prenez un sac de couchage qui se compresse, au pire achetez un sac compressible pour le compresser, mais ça c'est essentiel. Et donc là-dedans, ils ont un truc qui fait que tu peux compresser ton sac à mort avec des sangles déjà faites, et en plus, il est en deux parties, une partie étanche que tu peux enlever et une partie duvet qui est à l'intérieur. On a l'impression qu'il prend de la place, mais bien fait. C'est un truc qui se réduit à une peau de chagrin. Vraiment, il devient tout petit. Super, super efficace. Malheureusement, j'ai oublié le nom. Un peu cher. Ça demande un peu de technique pour l'utiliser. C'est pour ça, encore une fois, c'est pas l'achetez pas, le mettez pas dans le sac et l'oubliez pas. Si vous n'allez pas expérimenter un peu de couchage avec, vous allez passer une heure à le ranger, ce qui n'est pas la bonne idée en cas de survie extrême, comme on a dit, vous êtes en situation de crise. Voilà.
On essaiera d'échanger sur ce sac. Une autre partie qui était importante, là, on en est déjà à 17 minutes.
Donc, ouais, je suis trop bavard, je sais.
Non, mais c'est bien, c'est détaillé. Une autre partie qui était importante, donc, c'est sur la partie outils. Je sais qu'il y a un truc qui passionne les gens, c'est le couteau de survie.
Ouais.
Et d'affaires. C'est un outil que tu pourrais évoquer. Donc, vas-y, si tu as des recommandations.
Ouais, alors là, c'est clair et net. Il y a, pour tout ce qui est couteau.
Oui.
Il y a deux parties. Il y aura ce qu'on appelle vraiment le couteau de survie, le couteau de bushcraft, qui est dont l'image même est le couteau de Rambo, quoi. C'est le gros machin, le gros couteau, qui est maintenant de plus en plus petit d'ailleurs, paraît-il, mais qui va être très efficace pour se servir dans toute situation. Bon, dans le couteau de Rambo, il y a plein d'outils, mais c'est pas forcément le plus important. Si on parle de couteau de bushcraft, il faut prendre un truc sérieux, solide, pas trop lourd, puisqu'on est encore, on est dans un bob, hein, on n'est pas dans de la survie à long terme. Vous allez avoir besoin d'un gros couteau pour chasser le sanglier. Vous n'en êtes pas là du tout. Vous n'aurez pas à chasser. Vous avez à manger dans votre sac et ça va vous suffire. Un couteau efficace, à la rigueur discret, parce que quand on parle d'évacuation, une des règles d'évacuation, c'est la discrétion, et que vous ne devez pas vous faire choper ou vous ne devez pas avoir l'air agressif. Donc un truc qui soit, on va dire, l'arme discrète, quoi, l'arme facile. D'accord. Ça vous servira rarement d'arme, mais ça vous servira dans toute situation. On sait très bien qu'un couteau, c'est pratique. Par contre, donc le deuxième truc important, si vous n'avez même pas un couteau, le truc que vous devez garder à fond, c'est un multi-tool. Le multi-tool, bon, oui, c'est l'objet de base, hein. C'est là-dessus, vous avez déjà un bon couteau. Très clairement, il y a une marque de multi-tool qui est un comparable. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous achetez un Leatherman, ça sera un Surge ou un Charge. C'est les deux gros modèles. Vous investissez là-dedans, ça vous coûte.
J'ai une préférence pour le Leatherman Wave.
Ouais, il y a le wave, le charge et le surge, mais c'est vrai. Après, voilà, c'est, il y a des, il y a, il y a, ça sera selon ce que, la manière dont vous, vous avez besoin du machin. Il y en a avec des plus d'outils que d'autres, moins d'outils différents. Je dirais qu'à un moment donné, même si on peut dire que dans une situation de survie contre les zombies, il faudra une arme à feu, et ben il y a des laserman qui sont avec un kit d'entretien d'armes à feu dedans, c'est super utile. Bon voilà, c'est les... mais le bon, acheter un laserman dans n'importe quelle situation, ça vous servira. Le mien, il me sert une fois tous les deux jours dans la vraie vie, quoi. Donc ça sert à tout, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc qui a une grosse pince, il y a un couteau, une scie, une lime, des ciseaux, un tournevis, voire des tournevis, un ouvre-bouteille, un des trucs pour écailler le poisson, enfin, la caractéristique principale, c'est que c'est incassable, c'est le truc, c'est du sérieux, quoi, c'est un vrai outil.
Si toi, tu trouves que c'est incassable, c'est que ça doit l'être.
Comment ?
C'est réputé pour casser tout ce que tu touches. Je ne sais pas combien tu as eu de téléphone incassable. Si toi, tu dis que c'est incassable, c'est que ça doit l'être.
Alors, j'ai la mauvaise réputation, parce que j'utilise beaucoup de matériel incassable, de casser tout mon matériel incassable. Donc, je peux vous expliquer comment on fait, si vous voulez. Mais pour tout vous dire, j'ai cassé mon laserman il y a quelques jours, je suis extrêmement dépité. Mais bon, j'ai fait une chose qu'il ne faut pas faire avec, et d'ailleurs, c'est un très bon exemple. J'ai utilisé mon outil pour en faire quelque chose qui n'était pas prévu pour faire. J'ai voulu faire pied de biche avec le gros tournevis du laserman. Enfin, il est solide, mais c'est pas fait pour faire pied de biche. Et qu'est-ce que ça m'a fait dire? Je me suis dit, bah voilà, mec, en fait, si tu veux un pied de biche, bah, il faut un pied de biche. C'est vachement mieux. Du coup, je me suis dit, mais Thomas, le pied de biche, c'est quand même un peu à l'inverse de ta politique. Il faut avoir un truc léger, qui sert un peu dans toute situation. Et malgré ce qu'on voit dans les films, le pied de biche, c'est pas très pratique. Oui, mais on vit quand même dans un monde formidable. Maintenant, il y a des pieds de biche qui sont tout petits. Donc.
Tu me l'as montré.
Tu sais de quoi je vais te parler. Vous allez chez la marque Stanley, il y en a d'autres, mais celle-là c'est bien, c'est un truc de sécurité très sérieux. Ils ont une sorte de mini pied de biche qui fait 20 cm. Ça tient dans une poche, ça tient dans votre bob, c'est fait pour le bob, je dirais même, c'est carrément le truc qu'ils ont pensé pour ça. Ça fait un pied de biche très sérieux. Certes, vous n'aurez pas un énorme levier, parce que l'intérêt du pied de biche, c'est de pouvoir casser des trucs. Et pour le coup, c'est très sérieux. Vous êtes en situation d'évacuation. Un truc auquel on ne pense pas dans les bobs habituels, c'est que vous allez devoir très certainement péter des serrures et casser des trucs.
D'accord.
Des vitres.
Dis-moi, rappelle-moi.
Stanley, comme le prénom américain.
D'accord. Alors, je vois qu'on a pris pas mal de temps. Je propose qu'on fasse ça en deux parties. Et qu'on termine la partie outil maintenant. Et qu'on avance ensuite à partir de cette base-là la prochaine fois.
D'accord. Bah, je vais finir avec les outils alors. Ça va. J'ai encore des trucs à dire sur les outils, ça va venir. Bon, de toute façon, faut pas me lâcher. Hein. J'essaie de faire synthétique déjà, j'y arrive pas alors. D'accord. Alors, dans les outils, vous avez déjà votre petit pied de biche, vous avez votre laserman. Ce sont deux outils, on va dire, qui peuvent coexister très bien. Vous avez besoin d'un truc de base qui vous servira aussi dans toute situation, c'est du duct tape. Vous appelez ça du gaffer, vous appelez ça du gros scotch, vous appelez ça ce que vous voulez. Il y a plein de noms différents.
Il faut bien choisir.
Comment ?
Il y a pas mal de mauvaises copies.
Je crois que la copie vraiment, la marque de base la plus connue, c'est duct tape, le gros scotch qui c'est.
Celui qui... Celui qui est légendaire du style, essayer de réparer, ça marche pas, c'est que t'as pas mis assez de duct tape.
Ouais, moi je vous dirais, le duct tape, ça sert pour tout et surtout pour les trucs auxquels on n'a pas pensé. Pour ceux qui ne voient pas, c'est un gros scotch tissé, la plupart du temps il est noir, vous pouvez le prendre réfléchissant, ça peut servir aussi. Ça se déchire à la main, contrairement à la plupart des gros scotch, ça se déchire très facilement, t'as pas à y mettre les dents ou un couteau, donc gain de temps, super rapidité. C'est ultra solide, et ça peut te servir à tout. Je te dirais que encore une fois, dans tous les trucs auxquels tu penses, faut que tu répares un truc, faut que tu répares tes vêtements, faut que tu répares un outil, un vêtement, un véhicule. Ça te servira. Si tu veux te faire ça sert de pansement s'il y a besoin. Dans plein de situations, on en parlera, mais pour des problèmes de zombies, faut parfois se créer des défenses très rapidement. Bah, tu prends un magazine et du duct tape, tu te fais des avant-bras costauds déjà, c'est super pratique. Et pour attacher quelqu'un, c'est très pratique. Pour faire des pièges, on a tendance à pas penser, mais t'as pas besoin de ficelle, t'as du duct tape, mec, ça marche. Tu tises du duct tape, ça te fait une corde. Enfin bon, c'est génial. Après bon, faut pas oublier que le plus simple, c'est d'en prendre de pas en prendre le rouleau entier. Ça peut paraître bête, mais dévider la moitié du rouleau, et comme ça, vous pouvez vous le plier, il devient plat, vous le rangez dans une poche. Et vous en avez déjà une bonne quantité. Évidemment, ça ira à côté de la paracorde que vous
prenez. Sauf assez connu, le plier pour pouvoir le ranger et le planquer.
Ouais.
Le planquer, mais le ranger ouais. Avec un gain de place.
Bien sûr. Ça a un désavantage de prendre de la place du duct tape. Du coup, bah, vous êtes malin, vous l'aplatissez. Vous pourrez pas l'aplatir si le rouleau est entier. C'est trop gros, c'est trop solide. Enfin bon, moi, je suis pas pour. Vous pouvez essayer d'enlever la partie carton qui est à l'intérieur. Mais elle peut vous servir de temps en temps. Ça fait un bon allume-feu. Donc voilà. Donc après, bah, paracorde, les gars, paracorde, vous savez tous ce que c'est, vous savez que ça va vous servir un jour ou l'autre, prenez-en, plein.
Ça, la paracorde, c'est très connu aussi, j'ai reçu quelques recommandations, je verrai si je peux faire quelques liens.
Bah, le modèle de paracorde, les vendeurs de paracorde, comme Marion vous en parlera, moi ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à ce que vous allez en faire. Parce que l'avoir dans un bout de poche, c'est bien, mais vous pouvez l'avoir partout. Maintenant, vous avez bien vu les bracelets de paracorde. Bon, voilà, c'est une façon de le faire, de le transporter de façon intelligente. Mais la paracorde, vous pouvez la planquer partout et la garder de façon utile tout le temps. En fait. Donc, c'est essentiel, quoi.
D'accord.
Celle-ci, genre de choses, vous l'avez, la scie, vous l'avez sur le Leatherman. Bon, vous pouvez investir dans une scie un peu plus grosse, mais faut que ça soit le truc vraiment, vous n'allez pas en avoir vraiment besoin dans votre bob. C'est, encore une fois, vous avez normalement pas besoin de couper du bois, faire du feu. La pelle, il y a les petites pelles, ouais, bon, ok, je vois pas très bien ce que vous allez en faire dans un bob non plus. Donc, essayez de pas, pour ceux qui font pas la différence, votre bob, c'est pas votre sac de survie. C'est pas avec ça que vous allez traverser la France et que vous allez devoir faire monter des camps, un genre de choses. Donc, vous prenez que l'essentiel, en fait. Vous allez devoir, vous êtes 3 jours où vous allez être mal à l'aise parce que ça va être 3 jours où vous êtes avec le matériel et c'est tout. Et ouais, vous allez pas bien dormir. Ouais, vous allez manger de la merde. Ouais, vous allez devoir marcher. Vous allez pas devoir monter un camp. Vous allez pas aller tendre des pièges à des oiseaux. Vous n'en êtes pas là. Donc, c'est le strict minimum, quoi.
Strict minimum, léger, efficace.
Efficace.
Donc, au niveau des outils, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour?
Non, on n'a jamais fait le tour. Vous pouvez toujours mettre des trucs en plus. Après, ça dépend ce que vous appelez des outils. Hein. Il y aura des trucs qui rentreront dans les autres kits, mais je dirais que d'une manière ou d'une autre, si vous avez un truc qui vous permette de récupérer l'eau, c'est un outil d'une certaine manière. En fait, bon, si on veut mettre ça dans les outils, c'est un truc très transversal, pareil dans les kits, prenez un sac supplémentaire, en fait. Un petit sac qui se replie, un sac étanche, un truc qui vous permet à la fois d'aller chercher de l'eau, de ramasser des trucs et de les mettre dedans. C'est quelque chose que les gens oublient souvent de mettre dans leur sac de survie ou dans les bobs, mais un sac supplémentaire, pliable, c'est étanche, qui se ferme si possible, avec une corde pour le suspendre, c'est le truc qui vous servira dans toute situation et surtout, encore une fois, dans celle auquel vous n'avez pas pensé. Si vous imaginez, c'est pour ça aussi que je recommande aux gens de prendre un sac un peu plus grand que ce que ils vont mettre dedans à la base, mais si en plus vous avez un autre sac, c'est super. C'est qu'à un moment donné, vous avez plus à bouffer, vous devez tenir une journée supplémentaire, vous faites un raid dans un marché, supermarché, il y a des boîtes de conserve et t'as pas le temps de les mettre dans tes poches, quoi. Tu prends un truc, tu ouvres, tu les mets dedans, quoi. Donc, faut que tu puisses embarquer très rapidement, après tu prends le tri, c'est très bien, mais. Si tu as du matériel, des choses à ramasser, des feuilles pour faire du feu, tu les mets dans ton sac.
Voilà. En pire des cas, ça servira pour les vêtements sales.
Et exactement.
Les chaussettes vont pas sentir.
En fait, c'est pas forcément une question d'hygiène, mais de praticité. Imagine, il a plu, tes vêtements sont mouillés. Bon, t'as des trucs de rechange. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu les laisses pas là, tes vêtements mouillés, quoi. Donc, soit effectivement, tu les laisses sécher sur ton sac, c'est super. Mais si tu veux les ranger, vaut mieux qu'ils soient dans un truc échange, dans ton sac, et qu'ils contaminent pas le reste, et que comme ça, le reste de tes vêtements, ils sont secs, quoi.
Tout à fait. Je présume que tu l'aurais évoqué dans un autre module. Moi, dans les outils, j'entendais aussi la partie lumière.
Oui, Oui, tout à fait, c'est vrai. Bah, pour moi, c'est un kit. Oui, ouais, complètement. C'est ça fait partie des trucs autonomes. C'est-à-dire qu'une lampe en soi, il y a plein de manières de la voir. Soyez pas idiot, mais vous n'êtes pas, comptez pas sur la lampe de votre téléphone, hein, n'est-ce pas? Parce que des fois, on me dit, mais c'est bon, j'ai une lampe sur mon téléphone. Oui, c'est ça, bien évidemment. Oui. On en reparlera dans 3 jours. Et, ouais, la lampe, bon, alors là, on va s'amuser sur le débat de quelle lampe il faut avoir. Le truc très pratique, c'est évidemment la frontale. Au moins, ça vous laisse les mains libres. Vous savez tous que c'est important. En plus, vous pouvez, selon le modèle, l'accrocher à votre sac. Moi, je dirais qu'il n'est pas idiot d'avoir 2 lampes différentes. Une frontale, c'est bien. Il y en a des modèles qui sont vraiment très très forts. Il y en a qui clignotent. Ça vous permet de faire plein de trucs très pratiques.
Après avoir fait un petit tour dans les catacombes. Et ouais. Bon, alors c'est pas recommandé en cas d'invasion zombie. Mark Brooks en parle dans, je sais plus lequel de ses livres, mais c'est pas vraiment recommandé en cas d'invasion zombie. Mais en fait, ce qu'on a repéré, c'est que avoir des recharges pour les lampes, des piles de rechange, une deuxième lampe, ce genre de choses, c'est vraiment bien. Et également avoir une lampe étanche. Toi, t'as des marques que tu recommandes?
Ouais, je suis d'accord avec toi, tout à fait. En lampe étanche, bah, si vous allez dans les lampes de rando, au niveau de la frontale, il y en a plein qui sont déjà étanches. Les PEDS, c'est la base, hein. C'est une des meilleures marques du monde au niveau des lampes. Ça s'écrit de façon invraisemblable, je vais vous retrouver, comment on dit. PEDS, c'est PETZL, hein, pour ceux qui ont pris un stylo. Donc c'est une des meilleures marques de lampes de rando, de genre de choses. Pareil, c'est toujours un petit peu plus cher que la marque de base, mais là vous vous trompez pas au moins. Le truc il travaille.
J'en ai vu une pas plus tard que la semaine dernière, tombée dans l'eau, dans le noir quasiment total. Le mec qui était français derrière moi, Marianne, je crois qu'on a un petit problème. Et puis au final, ben non, il n'y a pas eu de problème parce que la lampe elle tient très bien de tomber dans l'eau et que voilà.
C'était une petite. La lampe, c'est un élément tellement important que vous pouvez le doubler, en fait. C'est presque le plus important, parce que vous serez cool avec votre couteau super de la mort quand vous y verrez rien la nuit, quoi, tu vois. Donc, c'est... Prenez, alors, je dirais, la lampe frontale, avec les petites piles qui sont dedans, ça va durer assez longtemps, surtout si elles sont bien faites. Prenez un truc un peu idiot, et surtout, c'est important pour les histoires d'évacuation. Encore une fois, il y a une question de notion de discrétion. La lampe frontale, vous aurez remarqué qu'elle éclaire là où vous regardez. Donc c'est bien, mais que pour certaines formes de déplacement, en fait. Ça peut être utile d'avoir une petite lampe qui soit accrochée à votre torse ou en direction du sol, juste. Pourquoi ? Parce que quand vous avez la notion de discrétion, vous êtes dans la forêt ou dans la rue ou n'importe où, quoi. Vous avez envie d'éclairer juste ce qu'il y a devant vos pieds. Et n'importe quoi qui vous alertera, vous aurez tendance à regarder vers cet endroit. Et ben manque de bol, vous éclairez le truc et vous vous rendez visible, en fait. C'est un truc de survie important, ça. Quand il y a des dangers.
Donc une deuxième lampe, ça démarre.
Alors, je dirais que utilisez pas les deux en même temps, ça n'a pas grand sens. Mais si vous arrivez à avoir une solution pour attacher votre frontale d'une manière différente que sur votre tête. Il y en a qui sont faites pour. Mais encore une fois, si vous avez 2 lampes, c'est très bien. Hein, gardez. Voilà. On dira évidemment qu'il n'est complètement inutile d'envisager quelques trucs de vision nocturne que ce soit. On n'en est pas là. Ah si, ceci dit, attends, on a un truc important. Si vous avez l'occasion, il y en a plus, vous n'en trouverez plus des vraies bonnes, mais de tomber sur une bonne vieille lampe police. Donc... c'est ces grosses lampes matraces noires qui
dans les films américains avec les...
Ouais, exactement. La marque, c'est Maglite, donc c'est une vieille marque, hein. C'est moi j'ai celle de mon grand père, c'est pour vous dire. Et c'est exactement la lampe police des films américains des années 80. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une lampe avec des grosses piles, donc elle est lourde. Les grosses piles, c'est bien, ça dure longtemps. Et elle a été fabriquée pour une bonne raison. Alors, ça sera pas la lampe la plus forte que tu trouveras aujourd'hui, parce que maintenant, les lampes avec des LED sont carrément des lampes de sécurité. Tu la mets dans la gueule de quelqu'un, il aura mal. Bon, là, on parle à des zombies, donc ils en ont absolument rien à foutre. Mais par contre, elle est lourde et elle sert de matraque. Elle a été fabriquée pour ça, quoi. Donc, ouais, vous avez un objet lourd un petit peu avec vous, mais ça, c'est un truc double emploi. C'est pas le pied de biche qui te sert que à faire pied de biche. C'est la lampe qui t'éclaire et en plus, tu peux la mettre dans la tête à quelqu'un, quoi. Alors, faudra taper fort sur un zombie, on est d'accord. Mais au moins, sur n'importe qui d'autre qui n'est pas un zombie, ça servira très clairement à mettre un stop à toute agression.
D'accord. D'accord, d'accord.
C'est un peu impressionnant.
Toutes ces techniques de négociation ou d'apaisement, de... ça ne sert à rien.
Non.
Alors là,
il y a différentes.
Là, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour au niveau des outils. C'est probablement pas le cas et on reprendra justement probablement là-dessus la prochaine fois, si ça te va. Nous, on en est à 35 minutes. Je pense que ça fait pas mal au niveau de l'interview. Est-ce que t'es OK pour reprendre une prochaine fois pour la deuxième partie?
Autant qu'il faudra, Marion. Autant qu'il faudra.
J'espère que ça prendra que deux parties. On sera un peu mieux parce que là, je suis seul, puis on va avoir un peu de mal avec le son. Écoute, merci beaucoup, Thomas.
Avec plaisir.
Est-ce que tu as une dernière observation? J'espère que non, mais au cas où j'ai oublié quelque chose, je t'ai coupé trop tôt.
Non, encore une fois, la réalité, on parle des zombies, mais la plupart des gens savent que les histoires de guides de survie de zombies sont des paraboles par rapport à la réalité. Et je recommande ceci dit de lire le guide de survie en territoire zombie qui est plein de très bons conseils de survie pure, en fait. Si vous l'avez pas lu, c'est un vrai livre de survie, en fait. Alors, il y a un ton un peu hollywoodien humoristique, mais malgré tout, c'est quelqu'un de très intelligent et il le dit lui-même que quand... La plupart des trucs qu'il dit, c'est faut voir un petit peu au-delà et ça a un sens qui vous servira de toute façon. Et d'ailleurs, il fait l'état d'un Bob dans son livre. Vous pourrez le décortiquer si vous voulez.
Dans la liste des guides que je propose, il y a le guide de survie
oui.
Pour les zombies.
Oui. Qui est pour... Je voulais pas faire le faillot, mais tu l'as mis. C'est vrai.
Et forcément, je l'aime, j'ai dédicacé, attends. J'ai reçu une dédicacé. Et c'est trop bien. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Thomas. Je te souhaite une excellente soirée, parce qu'on est le soir, là. Et je te rappelle de suite pour un petit débrief.
Ok, ça roule.
À plus. Ciao.
À plus tard, tout le monde.